Nous sommes de retour en direct dans les studios de Manosque avec Marion Coste et Batsheva Papillon. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour Mathieu.
Bienvenue dans nos studios. Vous venez régulièrement pour nous parler du numéro 0, le festival de cinéma et création radiophonique dans le pays de Fort-Calquier. Cette année, ça a eu lieu du 3 au 8 mai 2022. Et vous allez nous parler, on va revenir sur ce festival, nous parler du bilan en quelques mots. Et aussi vous allez nous parler de l'appel à résidence, puisque ça structure ce festival à l'année. Alors tout d'abord, quelques mots sur ce mois de mai 2022 et comment s'est déroulée cette semaine où il y a eu énormément de gens, je crois, qui sont venus.
Oui, on était très contents après deux années un peu perturbé, on va dire, dans l'édition de numéro 0. On était très contents de retrouver le public et le public avait l'air très content de nous retrouver. Du coup, on était à Fort-Calquier, à Lurs et à Bannon, puisqu'on a une dimension toujours itinérante. Et le public était là à chaque proposition, curieux, enthousiaste, content de nous retrouver. Il y a aussi des nouvelles personnes qui arrivent, des gens qui viennent d'un peu plus loin. On avait des gens qui venaient de Grenoble, de Vassivière. Donc ça s'élargit et on est très content de cet accueil-là. On a senti aussi peut-être, comme un appel d'air, là, les gens étaient contents de retrouver les salles, des propositions culturelles. Voilà, donc c'était très joyeux. Et les invités aussi, en fait, qui étaient contents aussi de reprendre du service, de venir accompagner leurs films, faire des propositions, des ateliers. Voilà, il y avait vraiment une ambiance... Une ambiance de rencontre, de partage, d'échange qui était, ouais, c'était très chaleureux.
Et ce festival, ça représente combien de personnes en une semaine? Ça brasse énormément de gens, j'imagine?
Énormément, tout est relatif. On est sur un territoire avec une densité de population qui n'est pas énorme, mais on a à peu près 1500 spectateurs sur la semaine, entre des propositions tout public, des propositions scolaires, des ateliers.
Ouais, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, on est content.
Batsheva, tu rajoutais quelque chose sur ce bilan? Ou sinon, on passe directement aux propositions de 2023 ou aussi sur le fait que vous structurez ce festival à l'année. C'est important pour vous d'expliquer ça aussi aux personnes qui nous écoutent. C'est une semaine, certes, mais qui se construit sur le reste de l'année.
Ben oui, effectivement, déjà préparer une semaine de festival... Peut-être on se rend pas compte quand on n'en a pas l'habitude, mais c'est un travail qui prend toute l'année. Et puis l'association La Miroiterie et le cinéma Le Bourget, qui organise le festival numéro 0, sont tous les deux impliqués dans des actions tout au long de l'année. Avec par exemple pour La Miroiterie des ateliers en milieu scolaire ou hors milieu scolaire. Des projections en dehors du festival et le cinéma de Fort-Calquier, comme vous le savez, est très actif, a des séances spéciales quasiment toutes les semaines.
Le Bourget.
Mais peut-être je vais laisser Marion raconter, parce qu'elle a une longue expérience, elle a créé d'autres festivals avant numéro 0. Qu'est-ce que c'est que la vie en fait d'un festival? Qu'est-ce que ça représente?
D'abord, on a envie de penser numéro 0 sur l'année et une présence sur le territoire tout au long de l'année. C'est pas juste un coup de projecteur pendant 6 jours. On a envie que la proposition autour du cinéma et de la création sonore, elle irradie toute l'année, qu'il y ait aussi une présence d'artistes tout au long de l'année sur le territoire et que ça circule aussi dans les villages. Donc, comme vous le savez peut-être, chaque année, numéro 0 va dans 2 villages différents et du coup, on en profite pour aller faire un travail. On propose à chaque fois aux écoles de faire un travail d'atelier en amont du festival, ce qui permet que le principal écueil pour les villages pour accéder à des propositions culturelles, c'est le déplacement, parce que payer un bus, c'est cher. Donc voilà, les écoles ne peuvent pas multiplier plusieurs fois dans l'année des propositions et des sorties. Donc nous, on se dit, on vient dans le village, autant faire bénéficier l'école. Donc on va faire un travail avec l'école en amont. Et en général, les élèves produisent une œuvre qui est diffusée pendant le festival. Après, on travaille depuis de longues années avec, par exemple, le Collège de Fort-Calquier. On est maintenant partenaire culturel de l'option de la spécialité cinéma audiovisuel du lycée de Manosque. Donc, tout au long de l'année, on fait des propositions. L'idée du partenariat culturel, c'est de faire profiter aux élèves en fait de notre, on va dire, de notre réseau professionnel. C'est-à-dire que nous, si on fait venir un réalisateur dans l'année, on va faire en sorte que les élèves du lycée puissent profiter. Soit ils viennent à Forcalquier voir le film, soit le réalisateur vient au lycée. Et puis on propose des interventions tout au long de l'année aux lycéens. On a construit petit à petit une équipe en fait, donc on a un preneur de son, un monteur, une chef opératrice, donc qui interviennent régulièrement au lycée. Mmh. Et puis on accueille une artiste en résidence, donc ça Bathé va en parler un petit peu plus tard. Chaque année, donc pendant 5 semaines, il y a une artiste qui est là sur le territoire et qui à la fois fait une œuvre et à la fois fait un travail en atelier. Et puis, on travaille avec des associations régulièrement. Par exemple, la Piste Moulala à Saint-Michel. On fait régulièrement des choses à Saint-Michel Observatoire. Après, le travail d'un festival, c'est tout au long de l'année, nous-mêmes se déplacer dans des festivals pour aller voir des films, pour construire notre programmation. Et puis, se retrouver, parce qu'on est un petit groupe de 5 personnes à faire la programmation. Donc, on se retrouve plusieurs fois dans l'année sur des temps qu'on appelle les temps de résidence, pendant lesquels on s'isole pendant 3-4 jours et on fait que voir des films, écouter des sons. Et aussi parler de ce qu'on a envie de faire. Et c'est là où jaillissent les idées, etc. Quoi.
Ce qui fait beaucoup rêver nos amis qui nous disent « Oh, t'as un chouette boulot, tu vois des films pendant 3 jours. »
C'est pas évident.
Mais c'est pas toujours évident parce que il y a une production de films documentaires assez importante et tout n'est pas bon.
Ah oui, et parfois on voit que des choses pas intéressantes pendant 3 jours. Après, on est déprimé.
Ouais, ça peut être assez déprimant, d'autant que voilà, le documentaire reflétant l'état du monde, on ne sort pas toujours de là tout guilleré. Donc c'est un travail, mais qui est quand même extrêmement enrichissant et qu'on adore faire, mais qui demande beaucoup d'implication personnelle.
Est-ce que vous avez une problématique, une ligne rouge par festival? Par exemple, 2023, vous avez un angle d'attaque ou pas du tout?
Non. On a choisi de faire un festival sans thématique. Après avoir fait pour la miroiterie pendant beaucoup d'années, on avait repris un festival qui s'appelait Ciné d'Archi, donc avec une thématique autour de l'architecture, l'urbanisme et du territoire. On avait vraiment envie d'être dans quelque chose de complètement ouvert, ce qui n'est pas toujours évident parce que du coup, on part de rien et tout est possible. Donc parfois, on est un peu perdu. Après, quand on choisit, on commence à trouver un film, deux films, on articule en général les choses autour. Voilà.
En fait, on a des thématiques, mais qui sont invisibles, que nous-mêmes, on ne voit pas, et qu'on comprend une fois qu'on a constitué la programmation. Là, on se dit, ah, mais oui, en fait, c'est ça qu'on a fait.
Et pour 2023, vous avez déjà un peu des idées ou tout est à faire?
On revient de festival. Là, on a été cet été notamment un festival à Lussas en Ardèche, qui est un gros festival du cinéma documentaire, et un autre à Douarnenez. Ils ont lieu en même temps, donc on s'est divisé. Donc on revient avec pas mal de matière. On va la semaine prochaine, on est en résidence justement. On va commencer à déblayer tout ça. Donc il y a quelques pistes qui surgissent, mais voilà, rien qui soit encore vraiment construit.
Il y a aussi le FID, le festival de cinéma qui est à Marseille début juillet. Et puis dans l'hiver, on va au Cinéma du Réel à Paris. Voilà, ça c'est des festivals où nous, on voit des choses qu'on ramène sur notre territoire et qu'on a envie de montrer localement à Forcalquier, parce que c'est pas des choses qui passent ni à la télé, ni forcément au cinéma, parfois sur des plateformes, mais pas toujours. Et puis de les proposer dans un temps et dans un lieu particulier et accompagné, voilà, ça crée des moments où les gens ont envie de venir, alors qu'ils vont pas forcément trouver ces films-là dans le labyrinthe d'Internet tout seul chez eux.
Et le festival numéro 0, c'est aussi une résidence sur quelques mois, mais on va revenir sur ce sujet. On va tout d'abord écouter un son. Peut-être en quelques mots, pouvez-vous nous présenter ce son, La nuit d'Halloween de Sami El Hadj?
Oui, alors chaque année, donc le festival numéro 0 reçoit en résidence de création sonore et radiophonique un ou une artiste qui est accueillie au début de l'année, en janvier ou février, et qui crée une œuvre qui est présentée pendant numéro 0. Donc cette année, c'était Sami El Hadj. Elle a fait un travail sur la question de la mort, qu'elle a présenté sous forme d'une installation dans le cimetière de Forcalquier au mois de mai, donc pendant numéro 0. Et d'ailleurs, elle va revenir en octobre, on vous en parlera. Et en parallèle de sa création, on demande aux artistes également d'intervenir auprès de groupes. Samia est intervenue à l'école de l'URSS et avec les enfants, elle a créé une courte fiction radiophonique de 5 minutes qu'on vous propose d'écouter.
La nuit d'Halloween. L'URSS 1929.
Le soleil se lève et les gens préparent leur maison pour Halloween.
Dans l'une de ces maisons, une petite fille se lève.
Alors qu'elle prend son petit déjeuner, elle écoute la radio.
Encore une journée ensoleillée à l'URSS. Mais attention, demain il y aura de l'orage, alors n'oubliez pas de sortir vos déguisements imperméables. Car demain, c'est Halloween.
Merci Maëlle pour cette météo. Et maintenant, nous allons passer aux actualités. Nouvelle disparition à l'URSS. Un homme a disparu alors qu'il rentrait de son travail. Cas d'arrache. Les techniciens n'arrivent toujours pas à trouver la provenance de cette fuite de produits chimiques qui se répand très vite dans les eaux de la ville. Mais ne vous inquiétez pas, nos experts trouveront une solution. Préparez vos costumes, parce que demain, c'est Halloween.
La petite fille a fini son déjeuner. Elle sort dans la rue jouer avec ses amis.
C'est bizarre, vous n'avez pas l'impression que hier, les arbres avaient encore toutes leurs feuilles ?
Ah ! Alice ! Alice !
La petite fille a tellement peur qu'elle s'enfuit en courant, s'enferme à double tour pendant tout le long de la journée.
Le lendemain, nous apprenons qu'il y a eu des nouvelles disparitions.
La petite fille sort quand même parce que c'est la fête.
Elle sort rejoindre ses amis pour jouer à se faire peur dans le cimetière.
Il y avait deux gargouilles particulières sur les murs du cimetière.
À côté des gargouilles, la petite maison du gardien se dessina dans l'ombre.
Elle vit quelqu'un de mystérieux.
D'un coup, des craquements comme des pierres qui se cassent.
La petite fille se retourna, ses amis n'étaient plus là.
Par contre, elle vit un épouvantail. Sur chacun des bras de l'épouvantail, il y avait un corbeau.
Où êtes-vous les amis ?
Elle regarda autour d'elle, mais aucune trace d'eux.
Elle croit voir une ombre et se retourne.
C'est le gardien.
Il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?»«
Je cherche mes amis. » »«
C'est pas un endroit pour la petite fille ici, je te préviens. »
Tout d'un coup, le gardien tomba. Derrière lui, il y avait cet étrange personnage.
C'était l'étrange personnage que la petite fille avait vu devant le cimetière.
Elle vit que le gargouille n'était plus là.
Elle se tourna et dans le cimetière, elle vit les gargouilles et d'autres personnages.
Il y avait un fantôme et un zombie.
Et des silhouettes qui ressemblaient à des humains mutants.
Ils étaient tous accompagnés du personnage étrange.
Comme si le personnage étrange les avait réveillés.
Elle voulut partir en courant, mais la porte du cimetière était fermée à clé.
Elle commença alors à paniquer.
Et elle cria à l'aide.
La petite fille était prisonnière du cimetière.
Des arbres poussèrent d'un coup.
La nature reprenait ses droits.
Le personnage étrange s'approcha.
Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas te tuer.
La petite fille et le personnage mystérieux se retrouvèrent attachés dans les lits.
Le chapeau de l'homme s'enleva. Non. Ce n'était pas un homme, mais une femme.
La femme dit
adieu
et mourut.
En même temps qu'elle, tous les villageois moururent aussi.
La petite fille était maintenant seule, prisonnière des lianes, condamnée à rester toute seule pour toujours.
La nuit d'Halloween.
Une fiction sonore, inventée et bruitée par les enfants de l'école primaire de l'URSS.
Avec
Paul,
Camille,
Ethan,
Dorian,
Rose,
Marek,
Ange,
Maël.
Merci à Marjorie, notre maîtresse. Et merci à vous aussi, les auditeurs.
Salut. Salut.
Et merci aussi à Samia Eladj qui a donc piloté ce projet avec les élèves de l'URSS autour de la nuit d'Halloween. Nous sommes toujours en direct dans les studios de Manosque avec Marion et Batcheva pour parler du festival numéro 0, le festival de cinéma de création radiophonique qui cette année aura lieu en mai aussi, j'imagine.
Oui, on a choisi nos dates déjà du 2 au 7 mai. 2023, et on sera à Forcalquier, Vachères et Niozel.
Oui, donc ce sont encore d'autres villages cette année. Et on parlait du fait que c'est un festival qui se construit à l'année, comme tous les festivals d'ailleurs, puisqu'il y a une dimension qualitative exigeante, mais il y a aussi une dimension économique. C'est aussi le moment de le souligner, c'est le côté moins drôle peut-être, ou plus matériel, mais nécessaire.
Voilà, dans notre travail, oui, c'est vrai qu'on va dans nos festivals et qu'on fait des sympathiques résidences, mais il y a aussi toute une part du travail qui consiste notamment à chercher des financements et à construire aussi des partenariats avec nos financeurs, que ce soit pas juste, on n'est pas juste dans une relation, on veut, on nous donne, mais aussi qu'on travaille ensemble, parce que eux-mêmes doivent défendre des politiques culturelles, donc l'idée c'est qu'on travaille ensemble sur comment nous on peut emmener des choses et comment eux peuvent nous emmener aussi quelque chose. Et ben c'est vrai qu'on consacre beaucoup de temps à monter les dossiers de demande de subvention. Et voilà, un festival comme numéro 0, c'est un tout petit budget. On est vraiment un peu sur un minimum. On est entre 50 et 60 000 euros par an. Et là-dessus, on a à peu près 15% d'autofinancement, soit de billetterie, soit des prestations qu'on réalise, nous, quand on intervient dans certains... Par exemple, demain, avec Batcheva, on va intervenir à l'IRTS. L'école régionale de l'éducateur, voilà, on va faire une petite des ateliers, non à Digne, parce qu'il y a une antenne à Digne. Mais voilà, nos principales ressources, c'est quand même des financements publics, et ça nous demande beaucoup de travail, et on n'en a jamais assez. Malheureusement, on aimerait... Voilà, c'est compliqué. Voilà, autant vous dire qu'on est très fragile en ce moment.
C'est compliqué, mais est-ce qu'il fonctionne encore ou... Peut-être c'est en suspension.
Ça fonctionne encore. Voilà, on a eu des petites modifications avec le Covid, avec les changements politiques. Il y a des petites choses qui se modifient. Mais globalement, voilà, les choses se maintiennent. Par contre, ben, nous, on a forcément, je veux dire, le festival depuis 2018, il se développe. Il y a de plus en plus de choses qu'on a envie de faire. Et du coup, ça se structure aussi. Et en fait, en gros, on a trop de travail. Il faudrait qu'on soit plus nombreux. On a envie de pouvoir continuer à inviter des gens, etc. Enfin, et puis mener de nouvelles actions. Par exemple, on va dans deux villages différents chaque année. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse retourner, par exemple, au cours de l'automne, avoir une petite tournée dans tous les villages dans lesquels on est passé. C'est-à-dire que toujours pareil, qu'on soit pas juste. Notre action, c'est pas juste une fois, c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans la durée et sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, mon rêve, ça serait d'avoir un petit camion cinéma et qu'on puisse tourner sur tout le territoire toute l'année. Bon, oui, on a quand même la chance d'être soutenu quand même partout, on va dire par tous les étages des collectivités, c'est-à-dire qu'on est soutenu par la DRAC et par le CNC. Donc ça, c'est au niveau de l'État. On est soutenu par la région Sud, par le département des Alpes de Haute-Provence. Et par la communauté de communes du pays de Forcalquier-Montagne-de-Lure. Voilà. Après, il faudrait qu'on ait peut-être des mécènes, mais pour l'instant, on n'arrive pas à aller sur ce front-là. Mais s'il y a des gens qui nous entendent, qui veulent nous soutenir, bienvenue.
L'appel est lancé, en tout cas. Merci pour ce petite rétrospective économique. Et on passe à l'appel à résidence, puisque c'est tout neuf. Ça date du 16 septembre.
Voilà, l'appel à projet est parti ce vendredi. Donc on attend vos réponses que le petit collectif de sélection va examiner très attentivement, écouter les propositions qui nous sont envoyées pour choisir un projet et une personne qui sera accueillie en résidence à la maison Picazio à Ongles en janvier et février pendant 4 ou 5 semaines. On construit un planning avec la personne en fonction de ses disponibilités, du projet, des nécessités du projet.
Et pour dire que c'est un projet de création sonore et radiophonique.
Voilà, c'est la quatrième année où on fait un appel à projet de création sonore et radiophonique. Donc on a eu déjà trois résidentes, donc Kabiria Chomel en 2020, Iris Kaufmann en 2021 et Samia Eladj en 2022. On demande à la personne voilà, d'être présente sur le territoire et de s'impliquer dans un projet avec des prises de son réalisées sur le territoire. C'est la seule contrainte, en gros, hein, c'est que voilà, ça soit vraiment des sons qui soient enregistrés sur place et pendant cette période. Mais ensuite, au niveau de la création, c'est très libre. Ça peut être la création sonore pure, ça peut être du documentaire, ça peut être de l'installation, de la performance. On est ouvert à toutes les propositions. Et jusqu'à présent, ça a été des rencontres très riches. Ces trois personnes qui sont venues en résidence de création sonore et radiophonique, on a encore des liens avec elles. Elles reviennent régulièrement faire des propositions pendant numéro zéro ou en dehors. Et
à noter
Samia El Hadj qui va revenir ce mois d'octobre. Donc Samia, elle avait fait une installation au cimetière de Fort-Calquier où on venait écouter les voix des futurs morts, c'est-à-dire nous, les vivants, parler de comment ils envisageaient leur propre mort. Elle les avait enregistrés pendant toute sa résidence et elle a fait une création qu'on écoute en fait comme un ou une chercheur d'or, c'est-à-dire on se balade dans le cimetière avec un petit récepteur de radio et un casque, et selon comment on oriente sa radio, on capte les voix. Et donc ça s'écoute comme ça en balade. Donc ça a été présenté pendant numéro zéro, ça a eu un gros succès. On est limité par le nombre de postes de radio, donc on s'est dit il faut absolument le refaire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu l'entendre. Donc voilà, Samia revient et c'est le 14 et le 15 octobre de cette année au cimetière de Fort-Calquier. Donc vous êtes les bienvenus, vous trouverez toutes les infos pratiques sur le site du festival numéro 0.
Dans ce cimetière atypique.
Dans le beau cimetière de Fort-Calquier qui vaut le déplacement à lui tout seul.
Vous pouvez aussi réécouter l'interview de Samia sur nos ondes aussi, sur notre site internet, puisqu'elle était venue présenter une étape de sa résidence avec des petits extraits sonores. Iris Kaufmann aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, est venue dans nos studios. C'était l'année d'avant. Elle a travaillé autour de l'art campanaire, des cloches.
Oui, Iris a travaillé sur les cloches. Pendant sa résidence numéro 0, elle a créé un documentaire sur le carillon de Fort-Calquier. Mais elle s'intéresse aussi beaucoup aux cloches et sonnailles qui pendent au cou des animaux. Et c'est là-dessus qu'elle travaille en ce moment. Dans la continuité de ses différents travaux, elle a fait ce qu'on appelle une résidence de territoire dans le parc naturel régional de l'Aubrac, pour lequel elle a travaillé sur le son des transhumances dans le massif central. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez venir l'écouter. Elle va en parler à Salagon, donc le musée jardin qui est à Mann. Le 28 octobre, il y a un rendez-vous ethnologique dont le thème est les sens sociaux des sons, sonorité, localité, communauté. Je pense que ça va être très intéressant. Et Iris va parler de son travail sur le son des transhumances. Et elle nous a envoyé un carnet de terrain sonore de ce travail qu'elle est en train de faire. Donc c'est un carnet de terrain, donc c'est en cours de fabrication. Et on peut l'écouter si vous voulez, ça dure 5 minutes.
On l'écoute, ça s'appelle Vacada en Aubrac.
Parce que le premier but des cloches, c'est ça. Ça a été pour faire... Quand tu marches, elles prennent le rythme. Même nous, tu prends le rythme. Hein.
Une meneuse, elle fait toujours bien sonner. Parce qu'une meneuse, elle a le pas. Elle a le pas imprimé.
Bon, après, je répète ce qu'on m'a dit. Mais c'est vrai que ça donne un peu de rythme. Voilà. Ouais.
Il faut faire la transhumance, c'est pour séparer le folklore. Ça permet de marcher, ça donne le rythme. On appelle les gaps là, ça donne le rythme.
on choisit les vaches, parce que tout le monde ne porte pas ça. On les observe quand elles marchent.
Ah si, ouais, ça... Si, quand tout le troupeau porte une cloche, c'est vrai que ça nous fait quelque chose, ouais. Ouais, ça fait une impression, ouais.
Ça entraîne.
Quand même, ça fait un bruit assez important, ouais, ça résonne.
Ça court vite une vache. Et on les, elles sont sur le plat, on les entend plus. Pourtant ça clappe, comme on dit nous.
Ça clappe.
Ça clappe. C'est des clappes, ils appellent ça en patois des clappes, les grosses cloches qu'elles ont. Parce que moi j'habite plus en face, alors je suis au troisième. Je les ai entendus depuis la garrigue alors. 5 heures c'était. Et lui c'est un des derniers d'ici qui monte en haut. Allez, on le rentend. Elles arrivent, Jacques. Dépêchez-vous.
Et merci à Iris pour ce carnet sonore venu tout droit de l'Aubrac.
Elle s'amuse bien, Iris, avec les cloches.
Elle s'amuse bien avec, avec les cloches. On a un petit remix de cloches de vache. De nouveau dans nos studios à Manosque avec Batshiva et Marion. Et nous parlons toujours du numéro zéro, ce festival de création radiophonique et de cinéma. Et c'est aussi des dates à l'année, pas un festival à l'année, un festival qui se construit à l'année, mais il y a aussi des projections tout au long de l'année. Enfin,
juste avant de parler de la prochaine projection, on voulait juste préciser que pour l'appel à projet, pour la résidence, toutes les infos sont sur le site festival numéro 0 et que la date limite.com, c'est ça Marion? festivalnumero0.com. Et que la date limite pour envoyer ses propositions, c'est le 19 octobre.
Ah oui, pour la création, pour la résidence,
voilà,
bien
pour
sûr.
Les gens qui voudraient venir en résidence dans le pays de Fort-Calquier, magnifique, et être chouchouté par toute l'équipe de Numéro Zéro pendant 5 semaines et proposer une création pendant le festival au mois de mars, au mois de mai.
Dernière question avant de passer à autre chose, juste par curiosité, vous avez combien de candidatures environ chaque année?
Une trentaine peut-être.
Ouais, j'imagine que le choix doit être compliqué parce que ça fait beaucoup de monde finalement, 30 personnes.
Ouais, c'est pas évident. Et puis on essaye de s'intéresser vraiment à chaque candidature. Et il y a quand même un enjeu pour nous parce que cette personne qu'on choisit, elle imprime quand même quelque chose toute l'année. Par le travail qu'elle mène sur le territoire. C'est elle elle est beaucoup en relation avec les gens. Mmh. Et du coup, c'est aussi à travers elle qu'il y a certains liens qui se tissent. Donc, il faut bien choisir.
Bonne chance pour le choix.
Bah, jusqu'à présent, ça a été merveilleux.
On rappelle la deadline, la date limite.
19 octobre.
19 octobre, c'est donc dans pas trop longtemps, dans un mois exactement. On va annoncer les dates de projection d'automne. Je crois que vous avez quelques moments privilégiés de rencontre avec le public.
Oui, on a commencé l'année dernière ce qu'on appelait les soirées d'automne. Alors, en lien avec le cinéma Le Bourguet, donc, tout ce qui se passe au cinéma, on ne peut pas le programmer longtemps à l'avance parce que Fabien, le directeur du cinéma, a construit sa programmation d'un mois sur l'autre. Donc, on n'a pas encore des dates à annoncer. Mais par contre, on participe au mois du film documentaire qui a lieu au mois de novembre, qui est proposé par Images en bibliothèque, une structure nationale qui travaille donc avec les bibliothèques autour du cinéma, et donc qui organise cet événement, le mois du film documentaire, tout le mois de novembre sur tout le territoire. Et on en profite pour faire une projection à la médiathèque de Fort-Calquier, donc ça sera le mercredi 9 novembre à 18h. Et on va accueillir une réalisatrice qui s'appelle Elitsa Gorgieva, qui vient avec son film Notre endroit silencieux, qui est un film. Donc Elitsa, elle est cinéaste et écrivaine d'origine bulgare. Elle vit en France depuis une vingtaine d'années, mais elle a grandi en Bulgarie. Et elle écrit et elle réalise ses films donc en français. Donc c'est une particularité quand on a une langue maternelle d'écrire dans une autre langue. Et justement, en fait, en faisant un master d'écriture, elle a rencontré une jeune femme, elle, biélorusse, Aliona Glugova, qui était en train d'écrire pendant son master un livre qui s'appelle « Dans l'eau, je suis chez moi », qui raconte en fait l'histoire de son père qui travaillait sur la centrale de Tchernobyl et qui, dans les années 90, il rêvait de voyager, de voir la mer. Et dans les années 90, quand les frontières se sont ouvertes, il est parti faire un voyage en bateau et le bateau a fait naufrage et tous les corps ont été retrouvés sauf le sien. Donc son père du jour au lendemain a disparu. Et donc elle revient sur cette histoire-là. En fait, son livre, c'est une enquête en fait pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc dans le film, on va à la fois avoir cette dimension enquête. Voilà, elle revient sur les lieux de son enfance, sur les lieux d'où son père est parti, etc. Mais en même temps, c'est toute une interrogation sur l'écriture et qu'est-ce que c'est écrire. Elle fait le choix, elle aussi, d'écrire en français. Et qu'est-ce que c'est, du coup, d'écrire en français? Et donc, il y a tout un dialogue, en fait, autour de ce processus d'écriture dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Et bon, bah, c'est très intéressant. Elle dit, par exemple, « Je voulais tellement dire de choses dans une seule phrase que ce n'était pas possible dans ma langue maternelle. Il y avait trop de mots. » C'est-à-dire que le fait de passer par une langue étrangère, et par rapport à une histoire très intime, ça lui permet en fait de prendre une distance et de pouvoir la raconter.
C'est donc le 9 novembre.
9 novembre. Et la réalisatrice sera donc là. Je le souligne parce que elle a hésité à venir en fait, parce qu'elle vient de Paris, elle fait un aller-retour pour venir présenter son film. Ça prend du temps en fait dans une vie et elle accompagne beaucoup de projections. Donc c'est pour nous, c'est toujours un moment très précieux quand les réalisateurs et les réalisatrices nous disent « Ok, je viens », et on essaye de les soigner aux petits oignons pour qu'ils soient contents de venir et de rencontrer le public.
Il nous reste pas beaucoup de temps. Peut-être c'est le moment d'annoncer les dates d'automne. Il y a d'autres dates à annoncer?
Pour l'instant, non. Comme disait Marion, il n'y a pas encore de film programmé pour l'automne. On vous rappelle juste, et c'est un scoop, que le festival numéro 0 2023 aura lieu du 2 au 7 mai. Donc vous pouvez déjà réserver cette semaine-là et prévoir de la passer à Fort-Calquier. et qu'on ira donc à Niozel,
Vachère
et Fort-Calquier, deux villages
qui ne sont pas à côté. Marion, tu
fais. Oui, juste si vous avez envie de rester informé sur ce qu'on fait tout au long de l'année, n'hésitez pas. Évidemment, on est sur Facebook et sur Instagram, Festival Numéro 0. Mais sur notre site festivalnumero0.com, vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter. On ne vous inonde pas d'informations, mais on vous donne les plus importantes.
Merci beaucoup d'être venu dans nos studios et à bientôt. On continuera à suivre vos actualités, bien sûr.
Merci beaucoup, Mathieu, pour ton accueil.